Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous.
Mon but parfait, c'était celui-ci. Tu aimes écrire. C'est ta passion. Grâce à cette passion, tu gagnes ta vie. Qu'est-ce que tu veux de plus ? C'était parfait.
Et oui, c'était parfait, comme vient de le déclarer Jean Giono, à qui nous consacrons cette émission exceptionnelle. Disparu il y a 50 ans, en octobre 1970, l'écrivain français est à l'honneur avec plusieurs publications, dont un volume spécial qui rassemble une dizaine de ses livres, de Colline à l'Iris de Suse, en passant par Mort d'un personnage et Faust au village, entre autres. Intitulé « Un roi sans divertissement et autres romans », publié dans la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard, ce coffret est préfacé par notre invité Denis Labouret. Bonjour.
Bonjour.
Quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête pour parler de Jean Giono, Denis Labouret ?
Des mesures, passion, peut-être littérature sans frontières, puisque c'est le nom de votre émission et que Giono est un petit peu trop souvent réduit à un territoire délimité en Provence et à Manosque, où il a vécu de fait. Mais son œuvre déborde les frontières, hein, déborde les mesures même de ce qu'on appelle littérature ou de ce qu'on appelle roman. Hein, on a mis le titre « Et autres romans », j'allais dire faute de mieux, parce que les œuvres, aucune de ces œuvres ne peut vraiment être limitée à la catégorie générique du roman. Donc oui, peut-être passion, peut-être des mesures.
Vous diriez que Jean Giono est un génie littéraire du XXe siècle ?
Oui, bien sûr. Hein, il épouse bien son siècle, né en 1895 et mort en 1970. Il a subi l'épreuve des deux guerres. En ce sens, il est représentatif d'une littérature qui doit se confronter à cette expérience-là, même si c'est pour la transcender, même si c'est pour mettre en question la fatalité de l'histoire. Mais de fait, il s'inscrit bien dans son siècle, même s'il est un peu à contre-temps, décalé aussi par rapport à son temps.
Et le mot génie ?
Génie, je crois que ça peut lui convenir, oui, parce qu'il y a un tel dépassement dans son invention, dans son imagination créatrice, un tel dépassement de toutes les déterminations historiques, sociales, initiales, qu'on se dit que c'est extraordinaire, qu'il faut quelque chose en plus que ce que l'on peut expliquer par l'endroit où il est né, ses parents, sa famille, etc. Donc en ce sens, le mot génie, qui vient de l'époque romantique, qui convient bien à Giono, qui est sans doute aussi un très grand romantique.
Alors nous allons essayer avec vous, Denis Labouret, d'évoquer l'homme et l'œuvre. Mais en même temps, c'est vrai que Jean Giono est cet immense romancier, célèbre pour de nombreux titres, dont Le Hussard sur le toit, mais aussi L'homme qui plantait des arbres, voire Regain, Les âmes fortes, ou encore Deux cavaliers de l'orage. Il laisse une œuvre monumentale, éclectique, et parfois, vous avez commencé de nous le dire, réduite à tort à l'univers de la Provence, où en effet il est né en 1895 à Manosque, exactement, et où il a vécu et écrit jusqu'à sa mort. Et je vous propose d'écouter ce qu'en disait Jean Giono lui-même.
Écrire exige une certaine solitude et une certaine solidité du travail dans lequel on se trouve. C'est ce que j'ai trouvé à Manosque, évidemment. C'est ce que j'ai trouvé à Manosque, la solitude, la paix, la tranquillité. Mais je crois que si j'avais été libre de m'installer où je le désirais, j'aurais choisi un pays dans lequel il pleuvrait beaucoup, dans lequel il y aurait des forêts avec des humus, des étangs avec des grenouilles, des espèces de choses humides. J'aime beaucoup l'humidité, j'aime la pluie, j'aime les ciels couverts. Remarquez que de cette vie en Provence avec le soleil que je n'aime pas, me permet précisément d'inventer plus, avec beaucoup plus de liberté, des quantités de paysages et de personnages, et de me plier avec beaucoup plus d'appétit et beaucoup plus de bonheur à la discipline du romancier.
Voilà, on entend bien ici Jean Giono qui refuse l'image d'un écrivain provençal, et c'est d'ailleurs une des premières idées reçues que vous aussi vous réfutez dans votre préface, Denis Labouret. Et en même temps, il a inventé un sud imaginaire, tout en se nourrissant d'une cartographie, d'un espace vaste, montagneux, qu'il avait sous les yeux. Donc il y a presque un paradoxe, peut-être une ambiguïté.
Oui, enfin, je cite ce passage dans la préface où il dit, de façon très paradoxale, l'écrivain qui a le mieux parlé de la Provence, c'est Shakespeare. Une Provence qui est celle des passions, justement, des passions universelles. Une Provence sans frontières. Une Provence où il rencontre le monde sensible dans son essence, hein, pour ainsi dire. L'épreuve de la solitude aussi. Ces personnages sont souvent des grands solitaires, hein, qui sont d'autant plus confrontés à leurs passions et à cette démesure dont je parlais tout à l'heure. Donc la Provence est le tremplin de son imaginaire, finalement. En Provence, il voit autour de la montagne de Lure, autour du Contadour, dans la vallée de la Durance, et en montant plus haut vers les Alpes et vers le col du Mont-Genèvre, hein, qui est le lieu de passage du hussard Angelo dans le Hussard sur le Toit, qui est peut-être aussi le lieu de passage de ses propres ancêtres, hein, qui est les Giono venus du Piémont. Enfin, il y a toujours un mouvement ascendant dans son œuvre qui s'arrache à la Provence du bas, à la Provence du soleil, à la Provence des masses, ce qu'il appelle la viande de pémican séchée sur les plages de la Côte d'Azur et dont il a absolument horreur. Et il fuit tout cela pour une Provence âpre, noire, ténébreuse, celle du soleil noir de la mélancolie, hein, et non pas du soleil où l'on, qui permet de bronzer. Donc voilà la Provence qui est séduite. De fait, il utilise les noms de la région, mais il les déplace, il les transforme, il les transfigure. Et il lui arrive aussi de parler beaucoup du Trièves, qui est au nord de la Provence, ou du Diois, hein, des régions qui sont au sud du Dauphiné, beaucoup plus alpines, beaucoup plus montagneuses que la Provence. Il parle aussi beaucoup de l'Italie. Hein, il a écrit un très beau voyage en Italie. À une époque, on pouvait voyager en Italie. Il a écrit un récit de voyage dans les mers du Sud, fragment d'un paradis. Il est capable de parler aussi bien de Vladivostok que du désert d'Adramaout. Hein, c'est pourquoi je parlais aussi de littérature sans frontières. Il parle très bien de l'Angleterre dans Pour saluer Melville, qui est dans ce volume de la Pléiade que vous avez mentionné. Hein. L'action de Pour saluer Melville n'est pas du tout en Provence. L'action d'un roi sans divertissement n'est pas en Provence. C'est le Trièves, et il y a un petit séjour à Grenoble à un moment. Alors vous me direz, c'est pas très loin, certes, mais cette Provence-là ou ce Trièves-là aussi sont démesurés et servent de décor au théâtre des passions. Voilà. C'est un théâtre pour l'âme et pour l'âme de chacun. Qui a écrit, qui a dit « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère », c'est Pascal, et il parle de toute la condition humaine. Giono nous parle de la condition humaine, même s'il a un très fort accent provençal qu'on se régale d'entendre.
C'est un peu une arène, en fait, dans laquelle il met des personnages, il met des... La nature, on va y revenir. Et d'ailleurs, en témoigne ce livre « Le chant du monde », qui est dans ce volume de la Pléiade, paru initialement en 1934. Alors c'est un roman qui est moins connu, sans doute, que les autres, qui est cette espèce de western lyrique. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le lis. Et ce texte, est-ce que vous l'avez choisi précisément parmi la dizaine de titres ici pour mieux le faire connaître, parce qu'il a peut-être été un peu occulté?
Oui, c'est un peu le but de cette édition, d'exhumer, de faire connaître des textes qui sont un petit peu au second plan. Le chant du monde, oui, échappe justement à une Provence précise et localisée, parce que c'est un texte mythique sur le monde, et aussi un récit d'aventure. On peut dire western lyrique, oui, avec une quête, avec un conflit, avec le maître des bœufs et des taureaux qui ressemble à un cow-boy qui est en marge de la loi. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'aventures, mais un rapport au monde et aux saisons qui est extraordinaire. Donc ce texte a paru à la fois peut-être injustement méconnu, mais aussi révélateur d'une vision du monde sensible qui est assez propre aux Giono des années 30. Qu'on retrouve peut-être aussi de façon un petit peu différente, mais assez proche, donc Ma joie demeure.
En tout cas, on est très heureux de pouvoir à nouveau le découvrir, parce que c'est un grand roman qui d'ailleurs a inspiré le dessinateur Jacques Ferrandez, qui en a fait une adaptation graphique absolument remarquable. Et pour cela, il est allé sur les traces des lieux évoqués par Giono, une aventure filmée par Michel Viotte pour un documentaire passionnant, dont voici un extrait.
Dans le champ du monde, Giono décrit un monde archaïque, une Provence d'avant la machine, faite de villages pleins de meules de blé et de grands chemins couverts de silex que les chariots broient sous leurs roues de fer. S'inscrivant dans une démarche poétique, il choisit de taire les noms des lieux qui l'inspirent et de contracter les espaces afin d'inventer sa propre géographie. Pour donner corps graphiquement à cette Provence imaginaire revendiquée par Giono, Jacques Ferrandez doit d'abord en reconstituer le puzzle. Il lui faut traquer sur le terrain les détails bien réels d'une nature et d'une architecture essaimée sur plusieurs départements. De la montagne de Lure aux gorges du Verdon, de la vallée de l'Ubaye au pays de Fort-Calquier, il effectue la collecte sensible et minutieuse des informations visuelles capables de répondre au verbe foisonnant de Jean Giono.
Donc un extrait de ce documentaire signé Michel Viotte du roman Le Chant du Monde. Est-ce que pour autant on peut dire que Giono est chantre de la nature ? Encore faudrait-il définir de quelle nature
Exactement,
on parle ?
Exactement, oui, la notion de nature est très ambiguë. C'est un peu une vision simpliste de dire que Giono aime la nature, défend la nature, promeut la nature. Ce qu'il aime dans la nature, c'est les catastrophes. Dans Colline, c'est la sécheresse et c'est l'incendie. Dans Bataille de la Montagne, c'est une inondation. Le choléra du Hussard sur le toit, il est très naturel. Le Hussard qui est un grand roman de l'épidémie qu'on gagnerait à lire aujourd'hui. Donc ce qu'il apprécie dans la nature, c'est ce qui transcende la nature sage et raisonnable et ordonnée. Ce n'est pas le cosmos ordonné, mais c'est la démesure, c'est la violence. Ce sont les leçons de cruauté que nous donne la vie animale. Donc une nature très ambiguë, très complexe. Et même dans le petit texte que vous avez cité, l'homme qui plantait des arbres, que l'on considère souvent comme un beau manifeste écologique ou écologiste, au fond, le personnage de Bouffier, Elzéar Bouffier, celui qui reboise les plateaux, c'est surtout une image du poète. C'est un homme qui aime façonner le monde à sa façon, de façon démesurée, en plantant des glands jour après jour, en redessinant le paysage, comme le romancier redessine le paysage par l'écriture. Ce n'est pas du tout une leçon de respect de la nature, c'est une leçon de transformation de la nature par l'imagination, par la démesure démiurgique de la création.
J'aimerais bien qu'on s'arrête une seconde avec vous, Denis Labouré, sur ce texte, parce que c'est vrai que l'homme qui plantait des arbres a une histoire très particulière, que ce soit dans sa genèse, dans sa diffusion et dans sa réception. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire qui ont peut-être aussi nourri les ambiguïtés autour de Jean Giono.
Oui, alors ce serait long peut-être de tout raconter, mais c'est d'abord un texte de commande.
Voilà,
ce n'est
première
pas un
chose.
Choix de Giono, ce n'est pas un manifeste écrit spontanément par Giono. Et c'était une commande du Reader's Digest, donc d'une revue américaine qui souhaitait faire une collection sur des grands caractères. Donc Giono a imaginé ce caractère de Bouffier et a tout inventé. Mais il l'a si bien inventé que les Américains et certains lecteurs ont cru à la vraie vie de Bouffier et sont venus en rechercher les traces en Provence, alors que c'est de la pure invention. Donc on a pris au pied de la lettre cette histoire, et on continue en un sens à la prendre au pied de la lettre. Ensuite, Giono a réécrit aussi la fin de l'histoire, donc il y a deux fins différentes, il y a une fin qui est assez ambiguë au fond, et il n'a pas cherché non plus à en contrôler la diffusion. Donc le texte a d'abord été diffusé en langue anglaise, puis il est revenu bien plus tard, dans les années 70,
mais
après la mort
tard,
de Giono,
en effet.
Par des revues écologistes justement, dans les années 70. Il a été publié en 74 dans Le Sauvage, qui était le supplément écolo de l'époque du Nouvel Observateur. Donc le parcours de l'œuvre a été assez particulier, et maintenant c'est l'un des best-sellers de Giono, hein, mais qui repose en partie sur un malentendu. Parce que même si Giono nous donne à voir la nature avec une acuité sensorielle extraordinaire, il n'est pas un homme à message. Il l'a été, il a regretté lui-même de l'avoir été, mais il ne cherche pas à nous donner une leçon sur notre rapport au monde. Il ne nous dit pas « faites tel geste pour sauver la planète », comme on dirait aujourd'hui. Le texte est beaucoup plus, à la fois beaucoup plus modeste et beaucoup plus puissant, parce que c'est un texte sur l'imagination créatrice.
Et en même temps, on ne peut pas nier que ce pan de l'œuvre de Jean Giono fasse écho, particulièrement aujourd'hui. Et même s'il s'en défend à corps et à cri, son œuvre est quand même sous le signe de, évidemment, d'un vocabulaire beaucoup plus contemporain qui serait l'écologie, la décroissance, la cause animale, la défense de l'environnement. C'est ce qui a frappé d'ailleurs Emmanuel Lambert, commissaire de la grande exposition Giono qui a eu lieu au MUCEM de Marseille tout l'hiver, qui a aussi de son côté publié un Giono Furioso, récompensé par le prix Femina Essai, et qui, en travaillant sur l'œuvre et la vie de l'auteur, a remarqué ce fait qu'on pourrait qualifier de contemporain. Emmanuel Lambert.
Il y a une chose qui m'a troublée, c'est l'écho des préoccupations écologistes aujourd'hui avec les textes militants de Giono dans les années 30. Mais attention, dans une écologie radicale, pas une écologie de compromis. une écologie qui va avec le rejet de l'argent, c'est-à-dire qui dit que l'avidité dont l'homme fait preuve est en train de détruire tout le vivant autour. Ça, c'est ce que Giono écrit dans les années 30, et c'est ce qu'on voit surgir aujourd'hui. Et là, pour le coup, c'est très intéressant de voir qu'en fait, ce sont les mêmes problématiques.
Et donc, s'il y a un malentendu, néanmoins, c'est ce qui permet peut-être aujourd'hui aux jeunes lecteurs de découvrir Jean Giono, Denis Labouré.
Oui, et on gagne toujours aussi à relire ces textes des années 30 qui sont, à mes égards, oui, prophétiques, qui annoncent une crise du monde industriel que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Hein, puisque dans la lettre aux paysans, il y avait une analyse très, très forte de l'alliance entre le monde capitaliste et la destruction du vivant. Hein, ça, je partage tout à fait le point de vue d'Emmanuel Lambert à ce sujet. Mais plus peut-être dans ces textes-là que dans L'homme qui plantait des arbres, qui est une fable d'un autre ordre.
Cela dit, même si encore une fois, il ne s'agissait pas d'une vision évangélique de la nature, puisque Jean Giono aime quand elle se venge aussi, quand elle le bouscule avec, vous le rappeliez tout à l'heure, Denis Labouré, avec par exemple cette épidémie de choléra racontée dans le Hussard sur le toit, qui aujourd'hui ne manque pas de nous rappeler cette pandémie du coronavirus que subit notre planète, évidemment, même si le roman est avant tout une histoire d'amour.
Oui, c'est l'amour au temps du choléra, le Hussard sur le toit. C'est la chronique d'une épidémie annoncée et qui se développe. Alors, le Hussard sur le toit ne figure pas dans le nouveau petit volume de la Pléiade pour des raisons de place, hein, de raisons de quantité, aussi peut-être parce qu'il est parmi les romans les plus connus de Giono. Mais il est vrai que lorsqu'on a vu se développer l'épidémie, j'ai dit au directeur de la Pléiade, tiens, le Hussard sur le toit aurait pu figurer aussi dans ce volume parce que ça parle tout particulièrement à nos contemporains. Le Hussard sur le toit, c'est un très beau roman d'un amour platonique, d'un amour merveilleux, qui s'affrontent justement à l'épidémie, et un roman du mal, de l'épidémie, qui est non seulement une épidémie du corps, mais comme aujourd'hui aussi, un mal social et un mal moral. C'est ce qu'on voit dans le roman où Angelo est sur le point d'être lynché à plusieurs reprises parce qu'il cherche à traverser les frontières, à échapper à la clôture des quarantaines, à soigner les corps des autres à ses risques et périls. Et c'est ce qui en fait un magnifique héros de roman.
Ma chère mère, vous qui me dites toujours de vivre dans l'imprudence, eh bien cette fois, vous serez contente de moi. Me voici à nouveau jeté sur les routes. J'ai dû quitter Aix, ne m'y écrivez plus. Des espions autrichiens sont en France. Ils ont retrouvé nos traces. Tous les patriotes italiens qui vivent ici sont en danger. Et j'essaie de les prévenir là où ils se cachent. Je vais à une ville qui s'appelle Manosque. Là-bas, vivent beaucoup de nos amis en exil. Ce sont eux les plus menacés. Je trouverai, j'espère, un de nos messagers pour vous porter cette lettre. Êtes-vous resté à Turin? L'Italie me paraît si loin. Et tant d'obstacles me séparent de vous.
Et nous poursuivons cette émission spéciale de Littérature sans frontières sur RFI, consacrée à Jean Giono avec notre invité Denis Labouré, auteur de la préface « Un roi sans divertissement » et autres romans, titre du volume de la Bibliothèque de la Pléiade qui vient de paraître chez Gallimard à l'occasion des 50 ans de la disparition de l'écrivain français. Et arrêtons-nous avec vous, Denis Labouré, sur ce choix d'un roi sans divertissement qui devient ici la pierre angulaire du recueil. Pourquoi la mise en avant de ce roman plus que d'autres?
C'est le roman d'une sorte de second départ hein, dans la vie de Giono, dans la carrière de Giono. C'est sa renaissance en 1946-47 après les douleurs, les difficultés de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une nouvelle création en toute liberté. Il y a peut-être un Giono qui naît alors, qui n'est contraint par aucun dogme, par aucun code littéraire, et qui, en 40 jours, écrit un roman qui est une merveille, hein, qui est l'un des plus grands romans du XXe siècle, parce qu'il rassemble des questions majeures, des questions existentielles majeures, et de façon à la fois tragique et extrêmement drôle, avec un ton désinvolte, avec un style parfois familier. Il y a un personnage qui est surnommé Saucisse, qui est haut en couleur. Ce sont des meurtres qui ont lieu, je ne vais peut-être pas raconter complètement l'histoire,
mais
ce qui est intéressant, c'est que Giono part d'un arbre au fond. Giono n'est pas le romancier qui plante des arbres, il est le romancier qui cherche un bon usage de l'arbre, et l'arbre, dans un sans divertissement, est magnifique, est superbe, c'est l'Apollon Citarède des êtres. Pourquoi? Parce qu'il sert à dissimuler des cadavres. C'est le lieu où le meurtrier cache ses victimes. Et toute la recherche, toute l'enquête conduit à s'interroger sur les motivations du meurtrier, mais ce meurtrier est un homme comme les autres, Nous sommes tous, en quelque sorte, des monstres comme lui, et c'est ce que finit par découvrir l'enquêteur. Donc c'est le roman d'une quête existentielle fondamentale, hein, qui pose la grande question du salut d'une communauté. Hein, qu'est-ce que c'est que le mal dans une communauté? Comment se guérir du mal dans une communauté? Comment avoir recours à la solution du sacrifice? Et on sait que dans l'histoire de l'humanité, il a fallu commencer par des sacrifices humains. Le roman parle par moments d'un automne qui a la couleur des prêtres aztèques et du sang qui coulait au temps des aztèques. Donc il y a à la fois cette histoire de l'humanité qui passe par le sacrifice humain, puis par le sacrifice animal et peut-être d'autres types de remèdes au mal et à la cruauté. Donc c'est un roman de la cruauté qui explique le choix de l'illustration, de couverture, du volume de la Pléiade. Un pur jeu de couleurs rouges et blanches qui représente le sang sur la neige. C'est la grande. Ce sont les couleurs d'un roi sans divertissement. Et pardon si j'anticipe un petit peu sur la découverte du sens du roman. Mais il reste quand même beaucoup d'obscurité. Je crois que le lecteur pourra se délecter. Comme je l'écris aussi dans la préface, les romans de Junot sont à la fois des romans qui offrent un très grand plaisir à la curiosité du lecteur par leur dynamique narrative et qui ont ces profondeurs cachées, secrètes, qui invitent chacun à s'interroger sur les abîmes du cœur humain. Un roi sans divertissement, c'est un roman sur les abîmes du cœur humain, mais c'est aussi un roman policier. C'est voilà. Un roman policier et métaphysique.
C'est un roman noir dans tout le sens le plus noble du terme, un roman de l'enquête où se révèle en effet la passion de la curiosité propre à Giono, comme vous le soulignez, son élan et la force propulsive d'une narration qui charme et emporte. D'ailleurs, il semblerait que ce soit cette dynamique romanesque qui, les derniers temps, lui importait le plus, comme le déclare Jean Giono dans cette archive.
Je refuse désormais de donner des messages et d'écrire des poèmes. Ce que je veux écrire, ce que je m'efforce d'écrire depuis un certain nombre d'années où je travaille seul, et parfois sans publier tous les textes que j'écris, ce sont des romans. Restons dans le système des romans. Ce qui m'intéresse, c'est le roman et le romanesque. Ce que je veux apporter désormais, c'est non plus des messages et non plus des poèmes, c'est du divertissement, de la distraction. Un peu c'est tout.
Un poids, c'est tout.
Oui, mais le divertissement, c'est un mot très important, justement.
Bien sûr, pour un roi sans divertissement.
Divertir le public, c'est justement nous donner aussi un moyen de dépasser l'ennui, de sortir de l'ennui qui est au cœur de la condition humaine pour Giono. Donc il faut que le roman soit divertissant.
Avec cet exemple aussi peut-être de pour saluer Melville, puisque Jean Giono a été traducteur de Moby Dick, et donc il commence d'écrire au début des notes peut-être sur son travail de traduction, et finalement ça devient un roman consacré à Melville.
Oui, alors pour saluer Melville, donc c'est l'un des textes qui se trouve dans ce volume de la Pléiade, publié en 1941, qui se fait connaître en France au même moment que la traduction de Moby Dick de Melville par Giono et Lucien Jacques et John Smith. Il s'était mis à trois pour le traduire, c'est un immense roman que Giono a fait connaître. Et pour saluer Melville, on pourrait dire pourquoi le mettre dans Un roi sans divertissement et autres romans. Ça peut apparaître comme une sorte de préface, comme une notice biographique, mais Giono réinvente son personnage de Melville dans ces quelques jours qu'il évoque dans cette histoire. Cette rencontre d'un Melville fictif avec une dénommée Adelina White est un merveilleux petit roman qui serait à l'origine de l'écriture de Moby Dick, de ce grand roman. Mais c'est Giono, inventeur et conteur, qui se donne complètement libre cours quand il écrit pour saluer Melville. Cet hommage à Melville ne peut être lui-même formulé que sur le mode de l'imagination. Donc ce n'est pas une biographie, mais une biofiction. Et si Giono se projette et se représente à travers ce Melville, c'est justement pour se dépasser aussi et pour se représenter en poète et non pas simplement en Monsieur Jean Giono.
Le roman genre majeur qui embrasse tout finalement. La poésie, la chronique, le divertissement, oui. L'hommage, le lecteur, la lecture, la littérature.
Oui, mais on peut aussi estimer qu'il n'est jamais tout à fait dans les cadres du roman tel qu'on le connaît.
Oui.
Tantôt, il est en deçà parce qu'il aime renouer avec la parole narrative du conteur, d'avant le roman. Tantôt, il est au-delà avec une invention narrative qui fait penser au nouveau roman, même s'il écrit avec nouveau roman. Tantôt, il est aussi dramaturge, il écrit des pièces de théâtre, même si ce n'est pas ce qui est représenté dans ce volume. Il est aussi auteur des pièces de théâtre, il est aussi cinéaste, il est aussi poète pour une part, il est aussi un très grand essayiste, il écrit un très grand livre sur le désastre de Pavie, qui est un livre d'histoire. Il s'est essayé à tous les genres, avec toujours un côté un peu expérimental. Ce n'est pas non plus ce qu'on connaît de lui le plus, mais il y a le désir de tenter de se lancer des défis, hein, de se lancer le défi d'écrire autre chose que ce qu'il sait faire. Et c'est un peu ce qu'il dit à propos de son Melville dans Pour saluer Melville. Et si j'écrivais autre chose, qu'est-ce que je vais écrire maintenant? C'est pourquoi il n'y a pas simplement deux manières ou deux de façon d'écrire de Giono, il y en a autant qu'il y a de livres. À chaque fois que Giono se lance dans un nouveau livre, c'est une nouvelle aventure. Lui-même ne sait pas forcément où il va. Donc, très grand romancier, oui, mais qui fait exploser complètement les frontières du genre. Ses romans contiennent du théâtre avec des dialogues extraordinaires. Ses romans contiennent de la poésie. Ses romans contiennent un regard de cinéaste. Hein, donc, roman, oui, mais à condition de... Hein, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Giono, au-delà du roman, pour questionner cette notion de roman.
Et en effet, vous avez un tout petit peu précédé la question suivante que je voulais vous poser, Denis Labouré, parce que vous rappelez à juste titre que Jean Giono était le contemporain de Sarraute, de Beckett, de Butor, les écrivains du nouveau roman. Et vous dites que d'une certaine façon, Giono a anticipé les innovations narratives du mouvement littéraire. Donc là aussi, une forme d'avant-gardisme.
Oui, une forme de modernité, même si lui-même était très critique ensuite envers le nouveau roman qu'il trouvait desséché, hein, qu'il trouvait purement formel. Alors qu'il y a toujours chez Giono, en même temps qu'une réflexion sur les formes narratives, il y a toujours le courant de l'imagination qui emporte tout. Mais il y a des romans de Giono qui sont étonnants. Les âmes fortes ne figurent pas dans ce volume de la Pléiade, mais c'est un roman dialogique ou dialogal avec des voix multiples qui parlent et on ne sait pas où est la vérité du personnage principal. Il y a plusieurs versions contradictoires. Et on finit le roman sans savoir où est la vérité. Et ça, c'est très proche du nouveau roman. Ça fait penser à du Claude Simon, avant Claude Simon. Dans Le Moulin de Pologne, le narrateur n'est pas fiable du tout. On se demande qui il est. Et tout à fait à la fin, et là, Le Moulin de Pologne, c'est dans ce volume de la Pléiade, à la dernière page, le narrateur dont on ne connaît pas le nom, et dont on connaît à peine l'identité, dit « Vous ai-je dit que je suis bossu ?» Et on s'aperçoit qu'il a une infirmité qui peut expliquer certains de ses comportements, qui peut expliquer une forme de méchanceté ou de jalousie. Mais on ne connaît pas vraiment ce jeu qui parle, ce jeu du narrateur assez inquiétant, assez étonnant. Et là, c'est assez proche de certains choix narratifs qui seront ceux du nouveau roman, ou déjà ceux de Beckett ou Sarraute dès avant 1950, hein, à l'époque où écrit Giono, pour ses chroniques. Là, il s'agit des chroniques romanesques, donc de textes qui sont écrits autour de 1950.
Donc décidément, Giono insaisissable, comme un fleuve, on n'arrive pas à le contenir. On essaye de le suivre, mais on part toujours dans des nouvelles aventures et dans des nouveaux projets.
Oui, comme un fleuve ou comme un delta. Dans la deuxième partie d'Edmond et autres caractères, l'action se passe dans le delta du Rhône. Donc un fleuve aux bras multiples, insaisissable, parce que dans certains cas, tout à l'heure on a entendu un entretien où il parlait des marécages ou des lieux humides. Ce qu'il aime dans l'humidité, ce qu'il aime dans la boue, ce qu'il aime dans... C'est le caractère fluide qui permet de donner forme à partir de rien. Hein, de façonner le réel. Hein, ce qu'il aime dans le monde extérieur, ce n'est pas ce qui est déjà bien connu et bien établi, c'est ce qui permet de façonner un décor nouveau, ce qu'offre prise à l'imagination.
Extraordinaire, Jean Giono, une œuvre à redécouvrir avec, entre autres, cette publication dans la bibliothèque de la Pléiade qui paraît avec votre préface, Denis Labouré, « Un roi sans divertissement et autres romans ». Et puis surtout, saluer ce nouveau cahier de Lerne consacré à Jean Giono avec une bonne trentaine de contributions tout aussi passionnantes les unes que les vôtres. Et je vois votre nom, Denis Labouré, parmi les contributeurs, avec des écrivains aussi comme Éric Villard, Henri Godard, évidemment, Pierre Michon.
Alors Pierre Michon viendra, ainsi que Jacques Ferrandez, que vous avez cité tout à l'heure, viendront au colloque que je co-organise à Paris, à la Sorbonne et à la BNF, les 1er, 2 et 3 octobre prochains. Donc si les auditeurs sont intéressés, un grand colloque Giono aura lieu le mois du cinquantenaire, parce que Giono est décédé en octobre 1970.
Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup.
Merci.
Denis Labouré.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.